Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Hey, salut le gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires! On va parler d'affaires, mais oui, c'est sûr, on va parler d'affaires. On va parler aussi des humains qui sont derrière ces entrepreneurs-là, puis ces humains, ces gestionnaires-là. Aujourd'hui, ben c'est drôle parce qu'on s'est connus dans une activité de réseautage, formation réseautage, à Montréal. Une belle gang, on était invités par l'équipe d'Action Coach que je salue aujourd'hui, mon amie Catherine, que j'aime beaucoup. Puis c'est ça, c'était une journée super le fun, on a fait plein d'affaires. Puis à un moment donné, il y avait un gars là-dedans qui s'appelait Carlos Bourret. Regard. Puis il est là avec nous autres. Salut Carlos.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir été, d'avoir d'abord accepté mon invitation.
Bien, merci à toi.
Ah oui, c'est le plaisir. Fun. On est bien accompagné aujourd'hui. Pour ma part, moi je suis accompagné de mon ami Michel qui va m'aider à co-animer l'émission.
Avec plaisir.
Michel Jalbert, avec qui on va avoir le bonheur de travailler pas mal ensemble. On vous garde des surprises. On a Maude aussi qui est là avec moi. Maude,
bonjour, Maude Bertium.
Maude Bertium, oui. Je le savais pas que c'était ça. Qu'est-ce que tu veux? Salut Maude, ça va bien?
Oui, toi?
Oui, merci de le demander. T'accompagnes notre ami Carlo?
Oui, effectivement.
Est-ce qu'on dit Carlo ou Carlos?
Carlos.
Bon, on va mettre de quoi au clair de suite, là. Non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné...
On entend
pas les gens. Tu régent ou raisin, tu sais? Hein? Il y a un S, Carlos. Donc, puis Maud, toi, t'es accompagné pour la route parce que tu vas nous jaser aussi tantôt dans une autre entrevue plus tard d'une entreprise que vous avez démarrée ensemble.
Oui, en fait, ouais, c'est ça. Ben, moi, je suis la directrice des camps de jour que mes collègues ont parti.
Ah, c'est les deux
ainsi,
gars.
Ouais,
OK, fait
exact.
Que c'est pour ça que les gars ils ont placé une femme avec eux autres. Ils ont dit, hey, sinon, ça va être le bordel, ça va être tout croche là-dedans. Ça prend une fille. Carlos, écoute, moi, je suis content parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu d'invité qui nous a parlé de prêt hypothécaire.
Ouais.
De ce fameux. T'es d'accord, c'est une jungle?
Absolument.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Avec les taux d'intérêt qui se sont passés présentement, on va se compter plein de niaiseries, ça va être le fun. Carlos, tu fais ça, toi, depuis quand? C'est une question, hein, Michel? On aime ça savoir, nous autres. Ça partit de où, ça, la base des affaires?
Écoute,
parce que là, tu es autonome, toi, là, tu as ta business.
100% travailleur autonome, regroupé dans un cabinet. Un peu comme les courtiers en assurance de dommages ou en assurance vie. Donc, on fait affaire, on est sous un chapeau, puis on travaille indépendamment un et l'autre.
C'est parti de où, la boîte de dire, ben moi, je veux pas de patron, là, je rentrais pas, t'es pas chez Banque Nationale. Là,
non, 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 écoute, ça
on
fait ça.
J'aime beaucoup Banque Nationale, là, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est ton patron. Hein? Toi, t'en veux pas de patron.
Le moins possible.
Le moins possible. Non, mais c'est ça, dans la jungle des affaires, hein, on a des gestionnaires, des gens qui sont. Des rouges, hein, des rouges.
Je sais pas.
Oui, pas bien, bien.
Fait que c'est ça, fait que ça fait 5 ans que je suis courtier hypothécaire. Je roule ma première bosse en affaires, par exemple. J'ai commencé à l'âge de 20 ans. À l'époque, magasin de franchise de magasin informatique. Ça a duré un certain moment. Je suis retourné faire des études après.
Après?
Oui. Fait que j'ai lâché. J'ai
l'informatique,
lâché le...
c'était pas ton bail. Tu voulais pas devenir un, comment on dit ça, un geek?
C'était pas moi le génie derrière l'informatique. C'est un de mes cousins qui, lui, est encore en informatique. Moi, j'étais juste là pour le volet administratif puis business que j'ai toujours eu un peu un flair naturel pour. Puis quand que ça, on a terminé cette aventure-là, j'ai décidé à ce moment-là de me retourner vers les études pour continuer et aller de l'avant. Parce que quand je regardais tous les gens qui avaient quand même un certain niveau de succès, la plupart avaient toutes fait un certain niveau d'études. Fait que je me disais, écoute, je pense que...
Un va pas sans l'autre.
C'est ça. Ouais. Fait que je me suis dit que je vais suivre un peu cette bosse-là. Fait que je suis retourné à l'université à l'âge de 27. Fait un bac en urbanisme à l'Université de Montréal.
En urbanisme.
Hey, pourquoi en urbanisme?
Ouais. J'ai toujours eu une passion pour l'immobilier. Puis un de mes bons chums est architecte. Là, on parlait, puis il dit, écoute, il dit, l'urbanisme pourrait vraiment t'aider parce que tu vas apprendre les mécanismes internes des villes, ou ça apprendre sur le développement urbain qui est extrêmement important. Puis on n'a pas besoin d'aller très loin. Tu regardes le port des grandes villes d'Amérique du Nord, c'est un carnage total. Donc, j'ai fait ce saut-là. Puis après ça, j'ai suivi tout de suite avec les maîtrises que j'ai faites back-à-back. Fait que pour un petit gars qui
deux maîtrises?
Trois.
Trois maîtrises, tabarouette, où tu mets tout ça, cette intelligence-là?
Je me pose la même question des fois.
Ah, mais c'est beaucoup d'efforts.
C'est beaucoup d'études, beaucoup
ouais.
de temps hein? aussi.
Oui, ouais, ça a été 8 ans back-à-back, là, travail, études, temps plein.
Étais-tu papa? As-tu des enfants?
Non, pas d'enfants encore.
Moins payé. Moins payé, oui.
Non, mais à 27 ans, à un moment donné, tu commences à avoir des acquis
ouais.
à payer. Oui,
ouais, ben j'étais propriétaire, fait que j'ai dû travailler quasiment à temps plein.
J'ai dû vendre ma maison.
Non, heureusement, non.
Non, tu l'as gardé.
Oui. Puis, mais j'ai été obligé de travailler quand même jusqu'à 30 heures par semaine, là, tout le long. Puis même rendu à la maîtrise, c'était quasiment 40 heures. Fait que je travaillais à temps plein et les études à temps plein. Fait que j'ai pas chômé. J'ai pas de cheveux gris. Fait que ça, c'est,
ouais.
c'est bon.
C'est bon,
c'est correct, c'est correct. Mais ça a l'air, c'est un signe.
Je peux pas en dire autant de toi,
non,
par exemple.
C'est ça. Mais c'est un signe, ça a l'air. Je sais pas un signe de quoi, mais ça a l'air que c'est un signe. Mais moi, j'ai une question, Michel. Je sais pas si toi, ça te trotte, là, mais je me dis, la base des affaires, là, tu sais, pour dire. Parce qu'un gars qui va normalement. OK, bon, on n'embarquera pas dans. Quand tu es en études, puis tu apprends, puis tu veux développer, puis on dirait qu'on a moins la base des affaires. Tu sais, la base des affaires, des fois, c'est comme une
c'est instinctif.
Hein? Oui, c'est.
Ouais.
T'as pogné ça où? Tes parents étaient entrepreneurs?
Oui.
Ah, ouais,
ça venait de quelque part, c'est
ouais.
sûr.
Oui, mes deux parents étaient entrepreneurs. Mon père était camionneur indépendant et ma mère coiffeuse. Fait que okay. les deux.
Fait que toi, t'entendais le jargon, là, le client, les fournisseurs, bon, les factures.
Ouais. Ah oui.
Et puis on n'a pas de paye jeudi, ça se peut, tu sais. Mm-hmm. C'est pas la même.
Ma mère, à l'âge de 3-4 ans, j'allais faire des dépôts avec elle tous les lundis ouais. À la caisse locale. Fait que j'ai.
Elle disait, compte-moi ça, ce pile de sang-là.
Mais c'est un beau leg, quand même.
Oui, c'était une petite pile de sang, je peux te confirmer.
Non. Je t'agace, mais c'est le fun. C'est le jargon d'entrepreneur.
Absolument.
Oui.
Fait que c'est pour ça.
Fait que ça vient de là.
Ouais.
Ouais.
Parce que c'est souvent, puis tu sais, je veux pas embarquer dans les clichés, mais les gens, ils ont beaucoup de scolarité. Ils développent une certaine maîtrise de quelque chose, tu sais, une expertise. Puis c'est pas souvent la base des affaires, tu sais.
Non, effectivement. Hein? Puis ça s'est découlé rapidement parce que quand j'ai commencé dans mes premiers emplois corporatifs, ça se voyait, puis je le sentais.
Ouais.
Je roulais, tu sais, je rentrais, puis j'étais quand même chanceux parce que j'étais quand même dans des positions assez hautes là, de management. Et puis je roulais la bosse de mes départements ou des gens.
Intrapreneur.
Oui, ouais, exactement. Hein. Fait que il y a eu des embûches qui ont été causées parce que je voulais ça un peu comme ma mini-entreprise dans l'entreprise.
Ouais. Et voilà.
Et puis, ça a causé des frictions.
Oui.
Je sais que j'ai pilé sur des pieds et j'ai fait chier du monde.
Oui, c'est sûr. Des fois, ça froisse des gens. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça n'en prend des patrons qui décident.
J'ai-tu le droit de poser une question?
Ben, voyons donc.
Mais là, tu sais où est-ce que je m'en vais. Moi, je m'excuse. J'aimerais savoir ton signe astrologique.
Ah, ben, on se
balance.
OK.
Balance, ouais. OK. Bon, c'est important. Michel, elle m'a flairé là-dessus. Elle m'a dit que je sentais le poisson. Non, elle m'a dit que j'étais comme un... Elle m'a dit que j'étais comme un poisson. C'est ça, hein? OK. Bon, en tout cas, poisson, mois de mars.
Ouais.
Puis Maude, ben, vous avez eu une discussion, je pense, en montant dans l'autonus, saute les branches.
Ouais,
là,
oui.
Que... Toi, tu t'avais de te lancer là, dans quelque chose que tu vas sûrement avoir besoin des services d'un maîtrisé.
Ben, c'est hein? ça. Moi, je connais absolument rien. Là.
Ben, non.
C'est bien mélangeant. Je t'avouerais, là, les prêts hypothécaire, wow. la banque, avec qui faire affaire. Puis là, moi, ça fait longtemps que je connais Carlos, d'ailleurs, puis je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait.
Ben,
vraiment.
Ouais. T'es un petit cachotier.
Ouais. Ben, tu sais, il travaille dans ses affaires, il a l'air bien occupé. Moi, j'étais comme, c'est un homme bien occupé, c'est beau, on ne peut pas le déranger avec des questions. Fait que j'ai appris ça, je pense, hier.
Ouais.
J'ai appris. Là, j'ai dit, hey, ben là, on va se parler, j'ai un projet. J'aimerais peut-être ça, racheter la maison... En fait, c'est mon conjoint, il a acheté sa maison avec ses parents, à l'aide de ses parents, parce que maintenant, c'est ça aujourd'hui. Mm-hmm. Là, c'est vraiment rare que les gens ont la mise de fonds
ben
à
oui,
mettre
écoute.
Eux-mêmes. Exact. Fait que là, je regardais c'est quoi les meilleures options. Est-ce que je rachète ses parents? Est-ce que je rachète la moitié avec lui? Est-ce qu'on garde ses parents dans l'équation et tout?
Ouais.
Fait que là, ça devient compliqué, mais c'est pour ça que c'est super
ben oui.
intéressant d'avoir cette discussion-là. Surtout que moi, je comprends pas les prêts hypothécaires. C'est quoi des prêts hypothécaires?
Non,
là? Ça revient à quoi? T'sais, on se fait pas enseigner
10 ans,
20 ça.
Ans, 30 ans, puis là, 2%, 3%, 4%, on ne sait plus, hein?
Non, mais on se fait pas enseigner ça.
On se fait pas enseigner ça.
Non, mais par exemple, on apprend, Pythagore.
C'est ça, exact. J'ai jamais utilisé Pythagore. Cosinus.
Cosinus tangente, là, on disait ça.
Ouais. L'air d'un triangle, moi, ça m'a jamais servi à date. Malheureusement.
Ay, mon Dieu, Seigneur, ça n'a pas de bon. Mais ben, c'est le fun. Félicitations d'avoir cette ouverture-là. Parce que, tu sais, des fois, on se lance dans quelque chose. On dit, hey. Tu te rappelles-tu, toi, Michel, ta première maison que t'as achetée?
Ah, définitivement.
Ouais. Seigneur, on était tout, mais tu sais, moi, personnellement, là, écoute.
Ben, c'est. Moi, j'avais la chance d'avoir un conjoint qui avait déjà passé par là. Ah, ouais. Fait qu'on a juste pris son conseiller hypothécaire, puis on a suivi, mais une chance, je l'avais, parce que j'aurais été néophyte complètement à pas savoir où aller.
Mais c'est ça, ça fait peur un petit peu aussi, là. Moi, j'étais pas trop sûre de vouloir m'embarquer là-dedans au début. Je suis comme, c'est bien trop compliqué, ces affaires-là. Il faudrait quelqu'un qui me conseille. Puis après ça, conversation avec Carlos, j'ai fait « Hey, je comprends tout maintenant, il fallait juste parler à quelqu'un. »
Fait que là, toi, dans le fond, Carlos, ton offre de service, c'est pas juste d'aller fouiller pour avoir le meilleur taux hypothécaire, c'est du conseil aussi. Là,
c'est du conseil, puis tu sais, on regarde là, juste le fait que vous dites le taux hypothécaire. Le taux hypothécaire est une fraction de la transaction puis de l'importance de qu'est-ce qu'on fait. Il y a toutes les conditions qui viennent avec une hypothèque. Puis souvent... On l'entend, là. Ah, j'ai vu ça affiché sur Internet, tel taux. OK. Puis c'est quoi les conditions avec? C'est quoi ta condition en tant que personne? C'est quoi ton but? C'est-tu un achat court terme, long terme, moyen terme? C'est-tu une maison familiale? T'achètes-tu un condo? T'es-tu tout seul? C'est-tu du locatif? Fait que tout ça fait que il y a une analyse de besoins très importante de chacune personne avec qui on travaille qui doit être fait pour s'assurer de bien le conseiller, de l'emmener à la bonne place, puis aussi de travailler avec le futur de ces projets. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde.
Ouais, tu restes là après.
Oui, absolument. Hein? C'est quoi qui se passe après?
Après, Après, dans la maison, est-ce qu'on a besoin de réno? Est-ce qu'on veut faire des réno à court terme? Ça prend une planification.
Est-ce qu'on, dans notre emprunt, est-ce qu'on a de l'argent pour rénover? Hein? Tu sais, comment il appelle ça, cette espèce de pré-réno?
Oui, exactement.
Est-ce qu'on prévoit vendre cette maison-là dans 3 ans ou dans 5 ans aussi?
Oui, c'est ça, exactement.
Fait que, tu sais, un bon exemple, j'étais avec des clients hier que eux, famille d'immigrants qui arrivent ici, les parents donnent de l'argent à leurs enfants pour acheter une propriété ensemble comme départ dans la vie, mais ils veulent s'assurer qu'ils ne sont pas dans un pays restrictif parce qu'eux veulent, dans 3 ans, sûrement vendre et racheter soit plus gros ou les deux enfants vont aller chacun leur bord avec leur part de gâteau. Et puis acheter eux-mêmes.
Ils veulent pas de pénalité.
C'est ça. Fait que c'est bien facile de dire, signe en bas 5 ans fixe, mais là, si tu te ramasses avec une pénalité de 20 000 quand tu fais la vente,
tu perds une partie de ton profit.
C'est vraiment malin, moi.
C'est les petites écritures dans le bas du contrat.
Ils sont tout petites.
Qu'on lit pas toujours, mais qu'on devrait.
Puis c'est
de la toile, là.
C'est
là qu'il y a des mauvaises surprises.
Ils sont en rafale habituellement, là. Puis non, fait que souvent, les gens prennent pas le temps de regarder cette portion-là.
Exact.
Puis pour moi, c'est aussi important que le taux.
Comme tu disais, c'est une fraction de la transaction.
Pourtant, on pense que c'est comme le critère numéro un.
Oui, on court de l'intérêt. Hein? Mm-hmm. Parce que là, on voit sur, mettons, on voit sur Internet, on fait une formule, là. Puis à chaque fois qu'on change 1%, là, c'est incroyable.
Méchante différence,
oui.
Une voiture, tu le vois moins parce que tu es sur 3, 4 ans, 5 ans.
Oui, mais absolument. La minute qu'on parle sur un hypothèque, là, même les points 1, point 2.
Oui, même les points. Hein? Ben oui,
quand on commence à jouer dans les montants plus élevés, là, on va rester, faute de l'exemple, entre 500, 600 000, ben là, c'est des centaines de dollars.
La différence, effectivement.
Toi, est-ce que tu as une hypothèque?
J'en ai plusieurs.
T'en as plein. Mais est-ce que tu étais, question niaiseuse à main, tu sais, cordonnier mal chaussé des fois, est-ce que tu avais ouvert ou tu étais fermé?
Moi, je suis présentement ouvert sur la plupart de mes hypothèques.
T'es malheureux de ça un peu, comme tout le monde?
Je peux t'annoncer que ça a fait mal
c'était pointable. Moi aussi, je suis ouvert. Puis, mon Dieu, on pensait qu'on faisait une bonne affaire.
Moi, je suis persuadé que...
Ça va revenir.
Ça reviendra pas aussi bas que ça l'a été.
Non, c'était tellement trop bas.
C'était
trop bas, là.
Mais c'est clair que ça va rebaisser dans un futur. Là, je pense
pas à 1,5 là, comme avant.
Je pense pas. La plupart des analystes vont...
On va être bien trop riches.
Oui. La plupart des analystes vont dire qu'un taux hypothécaire là, qui est en santé, dans un marché en santé, va être entre on va dire le 3,25 à 4,25. Okay. Là, ça, c'est quelque chose qui est raisonnable pour...
Ben, 4,25, on va être heureux pareil.
Oui, oui, oui. Hein?
Ça n'a pas de bon sens.
Oui, oui, oui.
OK, fait que je suis content que tu me rassures.
Mais j'ai ça... pas de boule de cristal, ben, c'est ça qui arrive. On ne peut pas le savoir.
Je regarde ton background un peu sur LinkedIn, puis je trouve que c'est rare qu'on voit des gens d'affaires qui sont dans le même domaine. Ça fait longtemps que tu es là-dedans, là.
Je fais de l'immobilier personnellement depuis 2006.
Hey.
J'ai commencé en tant qu'investisseur. Tu parlais de flipper, oui. J'ai fait quelques flips. Achat, location, comme ma propriété, où est-ce que moi je demeure, c'est un triplex.
En 2006, tu disais...
Oui, 2006, c'était ma première transaction.
Ça devait être bon, là, le marché était correct pour ça, hein?
Oui, sauf que il n'y a pas d'école d'immobilier, à part que si tu veux devenir courtier, puis tu sais, il n'y a pas d'école d'investisseur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent, puis qui donnent des chiffres.
Ils font semblant qu'ils connaissent ça.
Ça s'appelle le flair.
Ouais, le flair. Les filles, ils sont fortes là-dedans, d'abord. Oui, septième sens. Ouais.
Mais c'est ça, c'est un apprentissage qui se fait, c'est un peu, je veux pas dire essai-erreur, là, parce que c'est pas tout à fait ça.
Est-ce
même...
qu'il y a eu des embûches?
Ouais. Ah oui, le premier flip que j'ai fait, ça n'a pas été un flop, mais ça n'a pas, pas été ce que c'était supposé d'être.
C'était
un flip-flop.
Ouais.
Un flip-flop. Pourquoi? Parce que tu t'es mis déjà des ambitions plus hautes un peu sur le profit que tu allais faire ou découvrir des choses en défaisant là?
Oui, c'est exactement ça. On est tombé sur des surprises un peu. Puis la personne avec qui je faisais, c'était un contracteur. Fait que, on s'est dit, regarde, faute de cause professionnelle, on peut pas prendre la chance de pas bien faire les choses.
Oui.
Fait qu'on a vraiment fait tout A1, puis évidemment, ça a fait un peu exploser les coûts. Fait que ça a fait qu'on n'a pas fait de profit. Okay. On n'a pas perdu d'argent, mais on a...
vous n'avez pas fait le profit que vous aviez pensé.
On n'a pas fait de profit, je te le confirme. Mais écoute, ça a été une belle aventure.
Comme tu dis, c'est rare dans la mesure. Oui. C'est là que tu apprends.
Absolument. Oui. Est-ce qu'il y a une augmentation des flips depuis les émissions au HGTV
Ça, là, c'est une plaie incroyable.
Oui. Okay.
Ah, ouais. Ça aide pas? On voit ça positif, nous autres, on regarde ça pour ça.
C'est tellement facile à TV.
Ouais. Puis c'est vrai, ils prennent l'outil, là.
Ben oui.
Ça arrive direct, ils rentrent sur le... Hein?
Écoute, c'est un peu triste parce que...
Il y en a,
je sais, qui ont été influencés, puis ils ont dit, écoute, je suis capable de faire ça. Puis je dis pas que la personne n'est pas capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Sauf qu'il y a quand même des enjeux beaucoup plus importants, là. T'sais, on voit une émission de 60 minutes, puis des fois, ils nous disent que ça a pris 4 jours à faire des travaux. Je peux vous dire qu'une cuisine, ça prend pas 4 jours à faire.
Non, c'est possible. Voyons donc. Comment tu serais 12, là? T'sais, de toute façon...
À 12, tu te piles ses pieds.
Un panneau, c'est un panneau. T'es 12 à tenir le panneau, ça marche pas. Non, je suis d'accord avec toi.
Fait que c'est un peu tirer l'élastique un peu, mais regarde, c'est de la TV.
Mais c'est des shows, hein? C'est un show.
Absolument.
Mais on écoute ça, on capote.
On veut tout avoir des films.
On veut tout.
Mais je regarde la majorité des émissions en plus. Là, fait que je vous le dis, là, surtout sur HGTV. Ouais.
T'es comme un cuisinier qui regarde toutes les shows de cuisine.
On se le cachera pas. Il y a des très bonnes idées. Ils vont montrer un paquet d'affaires des fois. Puis là, t'es comme, OK, oui, ça peut être utile. Puis faut que tu prennes ce qu'on te montre puis tu le mettes à ta sauce.
Oui,
parce que des fois, c'est fou, là, les transformations. Ouais. Tu te dis, il faut vraiment avoir de l'imagination.
Puis c'est pas juste des designers, hein? Des fois, t'as des gens qui sont complètement flyés, là. C'est même pas leur métier. Ça veut dire que toi, le fait d'être propriétaire d'immeubles, ou en tout cas, du moins d'immobilier, ça te permet justement, quand tu vas, exemple, conseiller une cliente, tu sais, comme Maud,
ou des jeunes investisseurs, ou même des gens qui veulent démarrer un parc ou qui veulent devenir propriétaires.
Des gens qui viennent d'hériter, mettons, un couple vient d'hériter, ils se font conseiller d'aller en immobilier. Hein, parce que
c'est une des places.
Tu pars pas un podcast, là, quand tu fais. Quand t'hérites. Tu pars pas une boîte de marketing, là. C'est bien trop dur.
Est-ce que c'est aussi payant, lucratif que ça l'était auparavant?
Je pense pas.
OK.
Je pense pas pour plusieurs raisons. Premièrement, au Québec, les loyers sont quand même très contrôlés.
Oui.
On entend des histoires d'horreur, mais quand même, il y a un certain contrôle.
On est bien pareil. Les gens sont bien pareils, Québec.
Et puis, tu sais, où est-ce que, surtout les dernières années, c'est l'augmentation de valeur des propriétés. Fait que oui, il y a des gens qui se sont mis, on va dire, beaucoup d'équité dans les poches, mais c'est pas de l'argent liquide. Tu sais, tu peux pas aller magasiner avec ton équité, là. Ça
donne du levier.
Ça donne du levier.
Faut que tu saches bien t'en servir.
Effectivement.
Ça te prend des coachs, ça te prend des gens. Même si tu dis, j'ai 100 000 d'équité, mais je fais quoi? S'il va voir le banquier, peut-être qu'il va me faire une marge de crédit. Mais...
va aller voir Carlos.
Va aller voir Carlos.
Bonne idée.
Ça me fait plaisir.
Parce que lui, il connaît les banquiers. Hein?
En partie, on ne fait pas affaire avec juste les banques. C'est la beauté d'un courtier hypothécaire, c'est qu'on fait affaire avec tous les, tous les types de prêteurs. Fait que les fonds, les fonds de pension, les caisses ou les banques, caisses de dépôt, les banques virtuelles qu'on appelle.
Oui.
Les grandes banques, on fait affaire avec eux aussi. Chaque prêteur a un peu sa niche de produits.
Oui.
Et type de clients qu'ils vont préférer. Fait que nous, ça fait partie de l'analyse, s'assurer de bien cibler, un, le besoin, mais le type de client et de profil que vous avez.
Pour vous diriger au bon endroit.
Pour vous diriger au bon endroit, effectivement.
OK.
Ben, vois-tu, ça, c'est le champ d'affaires, des fois, que les gens ne savent pas.
Oui.
Puis, ils prennent un peu n'importe
c'est
quelle
pas,
banque.
On pitch à tout le monde, c'est vraiment
mon beau-frère était à telle banque, m'en voilà.
Oui, parce que tu ne sais pas, où t'en allais déjà, tu vas dire, je vais à la banque. Ben, c'est ça que tout le monde dit, un prêt, c'est la banque. Mais alors qu'il y a plein d'autres instituts qui font des prêts, tu sais.
Oui.
Puis t'es en expansion?
On essaye. Je me suis associé avec une collègue dernièrement. Fait que on a une belle petite équipe de deux présentement. Puis j'étais avec en co-partage, si on veut, avec d'autres gens aussi, là, avec qui je travaille régulièrement. Oui,
ça... Ils sont aussi dans le prêt?
Oui, aussi dans le prêt, oui. Fait qu'on partage nos réseaux, nos connaissances. Des fois, je sais qu'eux vont être habitués avec tel type de dossier. Fait qu'on va faire des échanges de dossiers. Juste toujours pour, un, répondre bien aux clients, parce que c'est la chose numéro un. Puis notre domaine, on dira ce qu'on veut sur toutes les manières de faire de la publicité. Le bouche à oreille reste...
la meilleure pub.
La meilleure pub et la meilleure manière de bien se faire connaître. Là.
Après le podcast.
Ben oui.
Hey, podcast, ben c'est en premier.
J'ai une question pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans.
Oui.
Je t'entendais dire que tes travailleurs autonomes est relié à
un cabinet.
Un cabinet. Ouais. À ce moment-là, est-ce que c'est comme un peu les courtiers immobiliers que tu as une redevance à donner au cabinet?
Oui.
Puis, OK.
Oui, c'est le même genre, structuré un peu différemment parce que notre structure
Orbis.
De paye n'est pas la même. Ouais, que moi, je suis présentement avec le groupe Orbis, qui est une bannière 100% québécoise de Montréal.
Oui,
100% québécois.
Wow, c'est le fun.
Oui, absolument. C'est un ancien d'une grande banque qui a parti le groupe il y a à peu près une dizaine d'années. Puis là, dans les 3-4, ça a vraiment pris une expansion importante.
Qu'est-ce que ça veut dire, Orbis?
On m'a expliqué que c'était l'orbe.
T'sais,
un orbe. Hein? Un orbe, un truc orbe, rond. Là,
On n'est pas sûr.
Non, je suis pas sûr.
On va revenir.
C'est ce qu'on m'a dit,
là-dessus.
Quelqu'un qui voudrait encore une fois commencer là-dedans, un conseil, j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain quand on a une banque de clients. Il faut aller cogner à des portes.
Oui, il y a beaucoup de travail, de téléphone, de sollicitations, si on veut. J'étais très chanceux. Mon background et puis mon réseau était déjà immobilier. Fait que ça m'a vraiment aidé beaucoup. Mais quelqu'un qui commence, qui est green, qu'on appelle vraiment, là, ils sortent des formations puis ils veulent se lancer. Groupe de réseautage hyper important. Toutes les activités où est-ce que tu vas pouvoir courtoyer des gens qui vont pouvoir te référer. Fait que des activités avec des agents d'immeubles. Des planificateurs financiers, comptables,
contracteurs.
C'est tous des gens qu'il faut que tu ailles voir parce que souvent, c'est ces gens-là qui vont nous emmener un volume de business intéressant.
Puis combien d'années ça peut prendre avant d'avoir atteint un plateau confortable?
Je pense que c'est entre 3 et 5 ans selon tes efforts.
Okay.
Un peu comme en assurance vie.
C'est très similaire.
C'est où la formation?
Il y en a plusieurs places.
Tu prends un cours finalement comme
comme agent d'immeuble, sauf que les agents d'immeuble, on était regroupés sur la même organisme. Puis là, nous, on est rendus, courtiers hypothécaires, on est rendus du côté de l'AMF avec tout ce qui est assurance et placement. Donc, nous, on relève de eux. C'est eux qui nous encadrent. Puis les formations, c'est des formations des collèges professionnels. Fait que dans la grande région de Montréal, il y a le Collège immobilier, il y a le Collège professionnel du Québec, qui est un autre. Il y a PHC, qui est Professionnel hypothécaire du Canada, qui donne une formation en ligne. Donc, ça se trouve à plusieurs endroits. Là.
C'est quoi les prérequis?
Secondaire 5.
OK.
Il n'y a pas,
Je serais correct.
Ouais. Non, secondaire à 5, c'est formation, c'est beaucoup basé sur comment rédiger des ententes, la mathématique de base là, pour calculer mm-hmm. les prêts. Puis après ça, surtout beaucoup d'éthique, parce qu'on ne se le cachera pas, là, tu peux vraiment... T'as accès à toutes les informations des gens. Fait que ça prend un certain niveau d'éthique très important.
C'est pas peut-être de casier judiciaire, là, puis d'antécédents, de fraude. Ou ben...
Non.
Mais dis-moi, moi, j'ai une question aussi. Michel, je voudrais savoir, est-ce que tu payes cette affaire-là? Non, mais.
Ben oui,
Tu me dis si t'as payé, là. Mais pour stimuler, des fois, les gens qui nous écoutent, ils disent.
C'est quelque chose.
C'est un milieu qui. C'est... D'abord, c'est le prêteur qui te paye.
Oui.
Tu me corriges, hein, si tu dis une niaiserie, là.
La plupart du temps, c'est le prêteur. Fait que on va avoir des prêts qu'on appelle avec les prêteurs A. Donc, monsieur, madame, tout le monde, deux employés d'Hydro-Québec qui viennent me voir, me disent « Carlos, on va acheter une maison, on passe où? »
C'est clean. Fait que,
ça, c'est clean, c'est facile.
Ils sont déjà pré-approuvés.
Quasiment. Là,
ben oui,
ils passent par un prêteur parce que c'est une obligation, mais tu sais, on le sait que c'est
là,
le tapis rouge.
Là, t'as deux autres travailleurs autonomes qu'eux autres, ils déclarent rien parce qu'ils veulent pas payer d'impôts.
Exactement. Sauf qu'on sait qu'il y a de l'argent qui rentre. Les compagnies, souvent, ont des bonnes entrées d'argent. Ouais. Mais là, on peut les qualifier d'une autre manière. Okay. Mais il faut peut-être aller vers d'autres types de prêteurs qu'on appelle des prêteurs B. Et à ce moment-là, là, le fardeau de la rémunération...
Est plus bon un petit peu.
C'est plus
risqué, non?
Non, c'est la même chose. Dans l'industrie, là, je te dirais que c'est à peu près 1% de la valeur du prêt qui est octroyé, la commission qu'on reçoit.
C'est bon.
Là, évidemment, ça, c'est au brut. Là, fait que là, il y a un paquet de choses qui sont enlevées avant que toi, tu te reçoives. Puis après, c'est le gouvernement qui passe.
Il passe, le gouvernement?
C'est qui ça? Comment t'écris ça?
Il passe vite aussi. Fait que c'est ça. Fait que à ce moment-là, le 1%, ils appellent ça des frais de dossier. Puis là, c'est le prêteur qui va les charger, mais le prêteur va nous les redonner. Mais c'est un.
Fait que dans le fond, c'est le client qui paye.
Dans le B, oui. Dans le B et dans le privé, c'est 100% le client qui paye.
Okay.
Parce qu'il se trouve à être rechargé par justement le prêteur.
Oui.
À cause de la complexité du dossier ou pas du tout, ça par rapport?
Oui, c'est souvent lié au niveau de risque.
Okay.
Parce qu'ils vont dire qu'il y a un...
C'est comme au hockey. Tu sais, quand tu étais dans le B, tu n'étais pas dans le A. Hein?
C'est ça, oui.
Mais non, c'est niaiseux, mais je voulais savoir, ça m'intriguait parce que je connais très, très bien les sources de revenus de l'assurance-vie mm-hmm. pour l'avoir fait pendant 5 ans.
Mm-hmm.
Fait que là, ça m'intriguait, c'est pour ça.
Oui. Et tu es 100% travailleur autonome.
100%, okay. Oui. Ouais. Okay. Puis là, il y a deux types. Moi, je suis incorporé.
Okay.
Donc, sinon, tu peux être enregistré puis être...
Ben, tu payes un petit peu plus d'impôts.
Oui. Hein, oui, c'est ça. Il y a d'autres problèmes qui viennent avec l'incorporation.
C'est un autre dossier.
Oui, c'est ça. On pourra parler de ça une autre fois.
Puis ta collègue, dernièrement, que tu as fait. C'est ce qu'on avait jasé ensemble quand on s'est parlé. C'est. Comment elle s'appelle, non? Ta nouvelle collègue. Là, avec,
Jennifer.
Jennifer.
Oui. Ouais.
Jennifer, elle, est-ce qu'elle est incorporée aussi? Vous faites un joint venture ou vous allez être ensemble?
Puis... Non. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on. D'incorporation séparée, comme si on reste indépendant, mais on s'est associé ensemble pour faire de la pub puis du marketing.
Partager vos frais, puis tu sais, ouais. Vous amener de la...
Le
c'est
business.
Fun parce que tout seul, c'est tough une business tout seul. Tu sais, tu parles des travailleurs autonomes, là, des fois, ça peut être difficile.
Absolument.
Tu sais, on parlait de coiffeuse tantôt.
Oui.
Tu sais, c'est un milieu qui... Oui, il peut être le fun parce qu'ils font leurs heures, ils font leur oreille, mais ça reste que quand tu es tout seul, c'est le fun.
Ouais.
J'osais qu'un partner, un collègue, un employé, peu importe. Hein.
Ils disent « it's lonely at the top ».
Oui. Absolument.
Mmh. C'est vrai,
absolument.
Ça.
Absolument.
Fait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochains...
Ben écoute, on souhaite que le marché reprenne bien, qu'on voit actuellement. Je pense que ça s'en va vers le mieux.
Je pense qu'on n'aura pas de récession. J'ai gagé 2 piastres.
Dire, écoute,
j'ai gagé 2 piastres avec mon beau-frère.
Moi, je m'avance pas là-dessus.
Ben, c'est parce que ça fait 2 trimestres qu'on est supposé d'être short, puis que c'est pas le cas. Fait que je me dis, ben, peut-être ça va... on est peut-être clair, là, non?
Si on n'est pas clair, on n'est pas loin, je pense.
C'est mon côté positif.
Il y a...
givré.
Il y a encore une demande d'emploi énorme. Là. Je veux dire, il y a des postes à combler partout. Fait que ça, c'est un peu à contre-ballant d'une récession normale où est-ce qu'on voit perte d'emploi, mais là, c'est pas vraiment le cas.
Non, on dirait qu'ils sont restés chez eux. Je parlais de ça cette semaine. On dirait. Parce que là, les gens disent il n'y a plus d'employés. Il n'y a plus de monde. Non, mais le monde, il n'y a pas eu une bombe nucléaire, là, sa planète, là. Le monde est encore là, le monde. C'est juste qu'il ne travaille plus.
Je suis pas sûr que je suis prêt à croire ça à 100 % non plus. Je pense qu'il y a un certain pourcentage de gens qui sont pas revenus ou qui ont changé.
Les plans ont changé après la COVID.
Mais on dirait qu'ils travaillent moins le monde, je trouve.
Ben, je pense que les gens, en tout cas, je vais parler peut-être pour une génération plus jeune, plus mettons peut-être ma génération, où est-ce que les gens, on est tannés de... Tu rends pas pour...
pas personnel, non, pas
pantoute. Non, mais c'est vraiment une génération où les jeunes, en tout cas, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, veulent plus travailler pour des employeurs qui sont irrespectueux du temps, irrespectueux des tâches et tout.
Ils travaillent mieux.
Il y a du quiet quitting qui se passe, qu'on appelle. Moi, les gens, ils font, OK, ben je paye salaire minimum, je vais faire le minimum. Fait que c'est de là où est-ce que je pense que les gens, ils ont l'impression qu'ils manquent de monde parce que le salaire minimum, on peut pas vivre avec le salaire minimum. Fait qu'après ça, essaye de payer tes employés au salaire minimum, ça devient compliqué, là. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens arrêtent de travailler avant de se trouver une vraie job qui va être vraiment bien payé. Puis bien traité aussi, là.
Ils travaillent mieux, les gens, on dirait. Ils sont plus intelligents, d'abord, que nous autres. Puis là, ils se disent, un peu, là, il a travaillé beaucoup, puis il a travaillé mieux, puis travaillé moins.
Ça, ben, nous, on vient du temps où est-ce que tu faisais des heures. Tu travailles fort, tu faisais des heures.
Une semaine de 50 heures, là, c'est une petite semaine, là.
Oui, oui. T'as 50 heures.
T'as rien fait. T'es même pas cerné.
Ouais.
Tu sais? Mm. Michel, non, t'es pas d'ailleurs. Mais c'est drôle parce que là, personne nous voit. On a le droit de faire bien des faces. Mais c'est le fun parce que... Puis je suis d'accord avec toi, Maud, en passant, parce que j'ai des jeunes. Moi, j'ai deux enfants, puis des gens, puis on jase. Puis je suis un gars très ouvert. Mais je me dis, comment ça, donc, que tout le monde manque... Hey, tous les entrepreneurs qui viennent ici, Carlos, là, 80% le mentionnent, tes écouteras, là, qu'ils ont des problèmes d'emploi, de main-d'œuvre. C'est un fléau, là.
Oui.
Mm-hmm. Mais
au début, il y avait besoin de temps. À un moment donné, c'était l'argent.
Oui.
Mm. Puis là, c'est le main-d'œuvre.
Mais je pense aussi que ma génération encore, je vais parler pour ma génération, puisque c'est la génération que je connais, mais beaucoup de gens qui sont entrepreneuriales aussi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont tannés d'avoir un boss, donc qui se mettent à se faire créer des entreprises. Fait que là, ça fait que tout le monde est des gestionnaires, mais parce qu'il en faut du monde pour travailler, pour...
Hier, je recevais Nathalie Riverain. Je vous invite à aller la googler. Nathalie, la belle Nathalie, qui était avec nous autres ici hier. Puis Nathalie, c'est comme une encyclopédie. Moi, je dis toujours, c'est mon dictionnaire d'entreprise. Elle connaît l'entrepreneuriat. Non seulement elle connaît, mais elle est... fanatique de l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. Connaissez l'école d'entrepreneurship de Beauce?
Oui.
Qui est réputée présentement un peu partout dans le monde. Était initiatrice de ça avec M. Dutille. Pour vous dire, Nathalie, elle disait hier, ici, là, pas en 2016, là, hier, elle disait qu'il y a moins d'entreprises. En fait, on est égal à v'là 25 ans, le nombre d'entreprises.
Fait qu'il n'y a pas eu de croissance au niveau de l'entrepreneuriat.
Ah non, je suis étonné de ça.
Ben moi aussi, je capotais hier. Je dis, peux-tu me répéter? Là, elle nous disait qu'il y avait 6,5 millions d'habitants en 1983. Je vais compter comme il faut, là, 30 ans plus tard.
40
ans plus tard, hein, parce que là, on est en 2023, Réjean. 40 ans plus tard, il y a le même nombre d'entreprises.
Ah oh, ouais.
Hmm. Oh, ouais.
Ouais. Il me semble, tu sais, moi, dans mon entourage, tout le monde se part en business. Fait que là, je me suis dit, hey, c'est...
Puis il y a 2 millions d'habitants de plus, là. On est 8,5 millions,
ouais,
là, maintenant, là.
Ah, ouais. OK, fait ben là, je la comprends pas.
Moi
là,
non plus. Là, j'ai dit hier, là, j'ai dit là, Nat, je comprends pas, là, je capote, ça m'a viré.
Ben, ça dépend. La jeune génération, moi, je crois que les jeunes de nos jours, jeunes, genre, âge scolaire encore, pour ma part, je constate qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas, mettons, sacrifier un week-end au chalet pour que leurs enfants travaillent. Non, tu n'iras pas travailler cet été parce qu'on va aller dans le sud ensemble. Fait que je pense qu'il y a une tranche d'étudiants qui ne sont pas sur le marché du travail pour ça.
14, 15, 16, 17.
Exact.
Ça a sorti, il n'y a pas longtemps. C'est là, super intéressant. Bon, on pourrait en parler longtemps, mais qu'est-ce que tu veux? Toi, c'est pas pire dans ton cas à toi? T'as pas besoin de staff?
Non, c'est ça. Moi, je suis 100% indépendant. Je travaille de chez moi, oui.
Ben, c'est ça. Nous autres, on engage du sous-traitant, on paye.
Effectivement.
Non, mais je veux dire, c'est les entreprises, tu sais, si on prend exemple Diva, ben ça te prend du personnel.
Absolument.
Tu sais, tu veux aller te faire belle chez Diva, ben ça prend des... Ça prend du monde, c'est sûr. Ton projet aussi, qu'on va parler tout à l'heure, ben votre projet, tantôt qu'on va jaser, ben ça prend du personnel, tu sais, ça prend... On s'en va où? on s'en va.
Bonne question. Puis,
mais toi, tu manqueras jamais d'ouvrage. Il va toujours avoir des maisons. Il va toujours avoir des prêts.
J'espère que je ne serai pas remplacé par ChatGPT.
Ouais, non, je pense
non,
pas.
Non, je pense pas.
Non, parce que c'est un service conseil aussi. Oui. C'est...
L'humain derrière aussi.
Oui, l'humain derrière. Puis, tu sais, comme ben, Maud, elle va le vivre, là, elle va être contente d'avoir une certaine référence pour dire, hey, tu sais.
Ben, certainement. Ben, poser toutes tes questions, ben, puis avoir tes insécurités aussi, répondre.
Parce que ChatGPT, il n'est pas rendu là, ChatGPT.
On parlait tantôt d'être seul.
Oui.
Qui te challenge, toi?
Oh, ça, c'est une excellente question. Mmh. C'est moi.
OK.
Puis, t'as pas le choix. Je pense que, tu sais, je parlais que je m'étais associé avec d'autres gens. Puis, c'est une de ces raisons, c'est pour être capable d'avoir l'opinion de d'autres mondes. Parce que moi, je vois les yeux au travers mes yeux, les dossiers au travers mes yeux. Mais des fois, c'est, tu sais, j'ai pas l'absolu. Puis, il y a tellement de produits, tellement de prêteurs que c'est bon d'avoir d'autres gens, avec, même si ce n'est pas des partnerships directs, mais qui sont dans le même milieu, avec qui tu peux parler de certaines choses pour te dire, OK, est-ce que c'est le bon move à faire? C'est-tu le bon dossier? C'est-tu le bon prêteur? C'est-tu le bon conseil que je donne? Donc, comment qu'on s'arrange pour le faire? Fait que, mais il faut que tu restes ouvert d'esprit à être challengé, parce qu'on sait que des fois, l'entrepreneuriat... Tu passes plus d'un cadre de porte, là, t'as la tête grosse de même.
Hey, moi, je suis un chef d'entreprise.
Exactement. Sauf que... Il faut rester humble là-dedans et dire, écoute, le produit doit matcher le client. Puis tu es là pour travailler pour le client. Mm-hmm. Donc, il faut que tu t'assures de bien servir ton client tout le temps.
Ben, c'est la base, hein? Pas de client, pas d'entreprise.
Exact.
Tu sais, hein? Tu sais c'est quoi? J'aurais quasiment le goût de te laisser le mot de la fin. S'il y a des gens, des fois, que tu veux saluer en passant.
Ben, écoute, je remercie trois personnes. Premièrement, James Martel, qui est la raison pour laquelle je suis maintenant en courtage.
C'est pas un monsieur qui a fait un livre, ça, vous l'avez pas longtemps?
Non, mais il fait plusieurs trucs en ligne. Là, si vous checkez 75 Hard in Real Estate, vous allez le trouver. C'est un courtier immobilier.
Ah, il fait quelque chose le 30?
Oui, exactement.
Le 30 mai à l'Hôtel Universel à Montréal.
Oui, exact.
Et c'est pas pire, hein?
Oui.
Je vais être là.
Bon, ben, on va se voir.
Yes.
Oui, puis après ça, j'aimerais remercier Nathalie Léger puis Christine Lemieux, qui sont les deux propriétaires de la première agence parce que j'ai travaillé, qui ont été qui sont encore des mentors pour moi.
Wow, c'est le fun.
Puis qui m'ont
d'avoir des mentors.
C'est qu'on est filles.
Ouais, ils m'ont pris tout frais, tout sorti de l'école du courtage, puis ils m'ont donné des bonnes bases. Fait que un gros remerciement à ces gens.
C'est important d'avoir des mentors, mais c'est important de les remercier puis de le constater. C'est tout à ton honneur.
Oui, absolument.
Félicitations. Bravo.
Merci
Maude de ta belle présence. On va sûrement te revoir pour un autre projet, on le sait pas. Merci Michel.
Ça fait plaisir.
Michel Jalbert, fondatrice de Diva.
Ah ouais, on peut dire ça comme ça.
Diva, les gens qui veulent se... Les gars aussi, hein?
Absolument.
Ben ouais. Les gars aussi. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir.
Merci d'avoir écouté la jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.